Et on va débuter par la suite. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette matinée, pour ce début de journée dans lequel tu nous permets, Seigneur, de plonger nos regards dans ta parole. Une parole que nous savons source de vie, d'instruction et source d'abondante bénédiction pour nous tous. Nous te demandons donc, Seigneur, d'étendre ta main et de toucher notre entendement, afin, Seigneur, que nous puissions saisir ce que tu as pour nous et ce que tu as préparé pour nous de toute éternité. J'appelle ta bénédiction, Seigneur, sur ma sœur et sur mon frère, tant sur ceux qui sont réunis actuellement que sur ceux qui écouteront cet enseignement ou cet enregistrement dans les minutes, dans les heures ou dans les jours qui suivront. Nous te demandons, Seigneur, d'être au contrôle de toutes choses. De faire en sorte, Seigneur, que cette parole puisse atterrir ou aboutir dans une terre fertile dans laquelle, Seigneur, elle peut croître et porter un fruit qui t'est agréable, non seulement de ce côté-ci de l'éternité, mais jusque dans l'éternité où nous serons avec toi. Nous te demandons, Père éternel, d'enlever tout fardeau, d'enlever tout obstacle, toute inquiétude, et que ta paix règne dans nos pensées, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous dans Psaume 118, le verset 1 à 4, et je relirai bien sûr le verset 2 qui nous sert de réflexion pour aujourd'hui. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Et je relis le verset 2. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Alors hier, on a débuté ce passage, je crois assez connu malgré tout, dans les Écritures, où on a expliqué hier qu'il était de notre devoir de répondre à Dieu et répondre à la bonté de Dieu, de lui rendre grâce, de le proclamer, d'affirmer sa grandeur, et de prendre du temps à compter les bienfaits que Dieu a manifestés envers chacun d'entre nous. Et on s'était dit qu'on allait parler de sa miséricorde durant à toujours dans les 3 prochaines journées, donc aujourd'hui, mercredi et jeudi, et on débute effectivement aujourd'hui. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Je vais faire ressortir 5 points aujourd'hui, ou 5 grands points plutôt aujourd'hui, et dans les enseignements d'aujourd'hui, les 2 prochaines journées, on va revenir constamment sur le fait que la miséricorde de Dieu dure à toujours en essayant d'apporter, je m'excuse, d'apporter une note différente, une interprétation élargie à chaque jour. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est sommaire parce qu'il y a encore à dire demain. Ce qui sera dit demain, si on le prend simplement de façon ponctuelle, il manquerait effectivement ce qu'on pourrait dire aujourd'hui de la miséricorde et ce qu'on pourrait dire de surcroît jeudi de cette même miséricorde. Donc, on vous invite à être là pendant les 3 prochaines journées, simplement pour qu'on puisse approfondir un peu mieux la question de la miséricorde de Dieu. Donc, premier point, effectivement, le terme miséricorde qui est en hébreu, le terme chesed, 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 pour ceux qui prennent des notes, effectivement. Et la miséricorde qui dure toujours, durer toujours, c'est le terme hébreu toujours, Olam, apostrophe, O, W, L-A-M, je répète, apostrophe, O-W-L-A-M, qui parle d'éternité. Donc, on est en train de dire que la miséricorde de Dieu est éternelle. Miséricorde, c'est un un terme que le religieux, le monde religieux va utiliser, mais le monde de tous les jours, le monde commun de nos vies actives ou autres, c'est pas un mot qu'on utilise dans notre discours ou dans notre lexique habituel. Ça a une connotation, oui, religieuse, oui, spirituelle, mais à la base, la miséricorde, si on devait trouver une définition très contemporaine, actualisée du terme, on parlerait d'une bonté abondante, donc d'une grande bonté. Alors, on est en train de dire ici que la bonté de Dieu envers nous dure éternellement. Donc, de toute éternité, la bonté de Dieu a été une réalité. N'oublions pas que la Bible nous enseigne que Dieu est amour. Dieu n'est pas devenu amour, Dieu a toujours été amour et Dieu sera toujours amour. Et donc, la bonté de Dieu est tout aussi éternelle que Dieu l'est lui-même. En toutes circonstances, en toute situation, à toute époque de l'histoire de l'humanité, la bonté de Dieu était accessible et était disponible pour nous tous. Donc le premier point aujourd'hui, c'est que la miséricorde dans le sens bonté de Dieu, bonté surabondante de Dieu, elle est toujours là. Malheureusement, certaines fois, il arrive que nous soyons un peu capricieux, qu'on ne remarque la bonté de Dieu que lorsque certaines choses qui nous sont propres, qui nous sont chères, surviennent dans notre vie. Donc quand Dieu répond exactement à ce que nous voulons, à ce moment-là, on reconnaît et on remarque la volonté de Dieu et la bonté de Dieu plutôt. Mais très souvent, lorsque cette bonté se manifeste dans des domaines qui nous sont un peu moins préoccupants pour un certain moment, qui nous sont un peu moins chers pour le point ponctuel dans lequel on peut être, on a l'impression que dans notre discours, la bonté de Dieu s'estompe. Soyons clairs, soyons précis, soyons nets et soyons définitifs sur la chose. La bonté de Dieu, la bonté surabondante de Dieu ne connaît pas de fin. La Bible va le dire, les bénédictions de Dieu ne sont pas à leur terme. Ses bontés se renouvellent à chaque matin. Donc il y a une reproduction constante de cette capacité à la bonté chez notre Dieu. Et ici, on va dire qu'Israël le dise, qu'Israël dise car sa miséricorde dure à toujours. Mais pour être capable de dire une chose, il faut encore être capable de remarquer ou de savoir une chose. Je ne peux pas proclamer un fait que je ne connais pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont maîtres dans l'improvisation, mais même l'improvisation va être quand même l'émission verbale, orale, d'une chose que nous connaissons intellectuellement. Alors pour qu'Israël soit capable de dire, car la miséricorde de Dieu dure toujours, il faut qu'Israël sache que cette miséricorde dure toujours. Et il y a deux moyens d'être capable de proclamer cet énoncé comme quoi la miséricorde de Dieu dure toujours. Un, l'expérimentation. Un, c'est le fait que j'ai moi-même expérimenté la grâce de Dieu. J'ai moi-même expérimenté la bénédiction de Dieu et la bonté surabondante de Dieu. Et assurément, Israël, en tant que nation, a eu cette occasion. On pense simplement à la sortie d'Égypte, on pense à quand Dieu a séparé les eaux de la mer Rouge, puis du Jourdain 40 ans plus tard, on pense à la conquête d'Israël avec Jéricho et avec toute cette grande victoire. On pense à David avec son affrontement face à Goliath. On pense à Gédéon qui a sauvé Israël de la main de Madian. Et il y a plein d'histoires dans la Bible qui nous rappellent la miséricorde de Dieu qui se manifeste ad vitam aeternam. Donc, la première façon pour moi, en tant que croyant et en tant que chrétien, de proclamer, c'est une proclamation qui est basée sur le fait que j'ai moi-même expérimenté la bonté de Dieu. Et je suis convaincu que chacun d'entre vous avait des témoignages sur une ou des expériences, même peut-être même multiples, de la bonté de Dieu qui s'est manifestée de façon claire, de façon précise dans votre vie. Et la réponse qu'on doit apporter à cette expérimentation, c'est effectivement de proclamer la bonté de Dieu. La deuxième façon dont on peut proclamer ou pour laquelle on peut proclamer la miséricorde de Dieu, c'est parce qu'on l'a appris. Un, on l'a expérimenté. Deux, on nous l'a enseigné. Et voilà pourquoi dans le peuple d'Israël, il était coutume d'enseigner les expériences passées. À un moment donné, Dieu va demander qu'on célèbre la Pâque. Et il va donner tout un processus à travers lequel cette Pâque, le repas du sabbat est fait, comme quoi les gens doivent être debout autour de la table, doivent manger de façon frugale et très rapide, comme s'ils étaient dans une presse et qu'ils devaient quitter rapidement. Et Dieu va dire à Aaron, à Moïse et aux leaders, je veux que vous fassiez cela et je veux que vous l'enseigniez au peuple, parce que le jour où vos enfants vous demanderont pourquoi fait-on cela, vous allez pouvoir leur dire, mais c'est parce que cette nuit-là, l'Éternel nous a délivrés de la main de l'Égypte. Et ce faisant, ils sont sortis prestement, rapidement, à la course du royaume d'Égypte. Donc, il y avait cette transmission de connaissances, transmission d'expériences qui se faisait de génération en génération. Il n'y a tout de même qu'une seule génération qui a expérimenté la délivrance face à l'Égypte. Mais cette délivrance était par la suite relayée au niveau de l'enseignement, au niveau de l'éducation des jeunes générations et des générations successives. Encore jusqu'à aujourd'hui, lorsque le peuple juif célèbre le Shabbat, lorsque le peuple juif célèbre la sortie d'Égypte, on parle encore une fois de comment les choses se sont passées. Et pour eux, ça soulève autant d'émotions qu'à la première génération. C'est toujours un moment émotif dans la famille juive lorsque nous célébrons les choses du passé. Donc pour nous, en tant que chrétiens, ça doit aussi nous interpeller. La miséricorde de Dieu, oui, s'expérimente, mais de surcroît à cela, la miséricorde de Dieu se transmet aussi comme une connaissance d'un peuple à un autre, d'une génération à une autre, d'un individu à un autre. Certains vont dire que on est prosélytaire, donc on est prosélyte plutôt, donc on transmet une croyance religieuse. Regardez, le témoignage fait partie de la vie chrétienne. La vie chrétienne ne s'exerce pas simplement dans le privé d'une maison, dans l'intimité d'un foyer. La chrétienté, la foi chrétienne est appelée au partage. Donc oui, tout chrétien est supposé être un prosélyte dans le sens où il transmet sa croyance religieuse. S'opposer à la question du témoignage, s'opposer à la question du culte public, c'est s'opposer même aux bases de la chrétienté. Jésus va dire à ses disciples d'aller dans tout le monde et de transmettre à toute la création ce que lui-même a transmis à ses disciples. Aller par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples. Donc c'était une transmission d'enseignement qui était prônée par celui-même qui est l'instigateur de l'Église. Alors à l'instar du peuple juif, qui pouvait non seulement avoir expérimenté la miséricorde de Dieu, nous pouvons aussi expérimenter quotidiennement la miséricorde de Dieu, mais à l'instar du peuple juif, qui eux devaient enseigner de génération en génération, nous sommes appelés à transmettre notre connaissance de la miséricorde de Dieu autour de nous. Un chrétien se doit de témoigner. Un chrétien se doit de témoigner. Et témoigner, c'est pas simplement poser des actions. Certains veulent être des témoins silencieux en disant je coupe le gazon de mon voisin et ainsi je lui témoigne de Jésus. Non, non, non. Tu es simplement en train de lui rendre un service. Il va penser que tu es un bon gars, peut-être même un gars un peu simplet pour te sacrifier à aller faire du travail chez lui. Il ne saura que tu le fais à cause de Jésus que si tu lui parles de Jésus. Le témoignage qui est à rendre est un témoignage verbal. Et voilà pourquoi ici on dit qu'Israël dise. Donc il y a une question de parler, il y a une question de transmettre oralement, verbalement, une expérience ou une connaissance. Qu'Israël dise, le verbe dire, c'est le verbe amar. Désolé. Amar. A-M-A-R. A-M-A-R. Et pour ceux qui s'inquiètent, non, c'est pas la COVID, c'est simplement qu'on est tôt le matin et que j'ai un chat dans la gorge. Qu'Israël dise amar. Amar veut dire affirmer. Donc Israël était appelé à affirmer, à dire que l'Éternel était miséricordieux. Il fallait que ça fasse partie de son langage. Il fallait que ça fasse partie de sa vie publique normale et banale. Au même titre où un chrétien, il devrait être normal et banal d'évangéliser. Pas banal dans le sens que ça n'a qu'une petite portée, mais banal dans le sens une chose qui est coutumière chez nous. Ça devrait être une bonne coutume, une bonne habitude, un bonus ou pratique dans notre vie de témoigner de Christ. Au même titre où je prie, au même titre où je médite la parole de Dieu, au même titre où je loue Dieu, au même titre où j'adore Dieu, au même titre où je prends du jeûne, du temps dans le jeûne et dans la prière, il est tout aussi normal, tout aussi partie prenante de la vie normale de tout chrétien que de témoigner. Alors je te pose la question, ça fait combien de temps que tu n'as pas témoigné à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Ça fait combien de temps que tu n'es pas sorti avec le désir, aujourd'hui, je parle à quelqu'un de Jésus. Ça fait combien de temps que tu n'as pas saisi toute occasion, bonne ou moins bonne, favorable ou non, pour parler de Jésus? Le témoignage de notre foi fait partie de la pratique tout à fait normale, 101, de la foi chrétienne. Alors, on affirme, on proclame. La proclamation, contrairement à l'affirmation, c'est juste je dis une parole comme ça. La proclamation, il y a une question de conviction dedans et il y a la connotation aussi d'une vérité importante qui est partagée. Et voilà pourquoi tout à l'heure je disais, c'est pas dans le sens péjoratif du terme que je parle d'une habitude normale. Nous sommes des porte-voix de Dieu. Le terme technique et le terme très, très ancien qu'on utilisait à l'époque, c'était être des héros pour Dieu et pas héros H-E-R-O-S qui parle de faire des hauts faits pour Dieu, mais héros H-E-R-A-U-L-T qui parle d'être un porte-voix. C'était ce serviteur qu'on appelait à l'époque un crieur. Vous aviez des crieurs publics. Cette personne allait au coin de la rue, avait un édit qui venait du roi ou d'une personne en autorité, et défaisait son rouleau, et à l'occasion, vous pouvez le voir dans des festivals un peu médiévaux ou autres, et vous avez ce porte-voix, ce crieur public, qui sort et qui dit « Oyez, oyez, jeunes dames, messieurs, gentes dames et autres, voici ce que le roi proclame. » Et c'est tout simplement le porte-voix d'un message du roi. Et nous sommes ce genre de héros. Nous sommes ce genre de crieurs publics. Jean-Baptiste disait de lui-même qu'il était la voix dans le désert qui proclamait la venue du Seigneur. Et nous sommes, en quelques points, aussi des porte-voix dans le désert, des crieurs pour notre génération, non pas cette fois-ci comme la venue de Christ, mais le retour de Christ, puisque le Messie est déjà venu effectivement, mais qu'il va revenir chercher son Église. Alors on prépare encore nos contemporains à la rencontre avec Dieu et nous sommes chargés du message le plus important qui a été donné à l'homme, à savoir Christ sauve. Nous avons besoin d'un sauveur et ce sauveur est sur le point de revenir et après cela, il sera trop tard. Donc on affirme, on proclame et on répond. Si amar voulait dire, ou dit, le terme dire en hébreu amar voulait aussi dire répondre. Alors quelle était la réponse qu'Israël allait faire à la bonté, à la grâce et à la miséricorde de Dieu? Quelle est ta réponse à la miséricorde de Dieu? La réponse qui se doit, c'est que cette miséricorde que j'ai moi-même expérimentée, je me dois de la partager à d'autres. C'est la réponse la plus importante et c'est la réponse qu'attend Dieu face à la miséricorde qu'il a manifestée à ton égard. Donc non seulement il te faut affirmer, cette miséricorde vient de Dieu et parler de cette miséricorde, il te faut proclamer haut, fort, visiblement, audiblement la miséricorde de Dieu et ce faisant, c'est aussi une réponse que toi tu offres à Dieu par rapport à la miséricorde qu'il a manifestée à ton égard. Revenons dans le début de ce verset. Qu'Israël dise. On a la contraction, l'abréviation QU apostrophe pour que Israël dise. Et vous savez, s'il y a deux voyelles l'une après l'autre, on met l'apostrophe pour contracter le terme. Donc, qu'Israël dise. Ce terme que, c'est le terme hébreu na, apostrophe na, apostrophe na. Et en fait, le na est plus une onomatopée et plus un son qui était fait lorsque Israël était dans l'étonnement et ou dans un sentiment de supplication. Si on traduisait na aujourd'hui en français, ça serait O avec énormément de H, genre O Israël, dis donc. O Israël. Et ce O, ce na en hébreu, voulait dire que Dieu suppliait Israël. À travers David, le psalmiste, Dieu était en train de dire à Israël, je te supplie de dire, car sa miséricorde dure à toujours. Je te prie de dire, car sa miséricorde dure à toujours. Je t'exhorte à dire que sa miséricorde dure à toujours. Donc, c'était un appel au peuple d'Israël à proclamer la miséricorde de Dieu, à partager la miséricorde de Dieu et à répondre à la miséricorde de Dieu. C'est un appel pour le peuple d'Israël, mais nous savons tous, la Bible nous l'enseigne, dans le Nouveau Testament, on nous l'explique clairement, que nous sommes ce qu'on appelle aujourd'hui, on appellerait plutôt aujourd'hui Israël spirituel. Nous sommes cette descendance d'Abraham qui n'est pas une descendance physique, qui n'est pas une descendance génétique, mais nous avons été greffés à cette multitude que devait générer Abraham, le père de la foi. Nous avons été greffés à cette famille de Dieu. Et Dieu nous dit à nous qui sommes Israël spirituel aussi, qu'Israël dise, ô Israël, je te supplie, peuple de Dieu, je te prie, peuple de Dieu, je t'exhorte, peuple de Dieu, à proclamer que sa miséricorde durera toujours. Alors c'est comme si Dieu venait te voir en te disant, et là tu mets ton prénom, je vais mettre le mien, Florent, je te supplie, proclame que ma miséricorde durera toujours. Pourquoi? Parce que c'est important. Voyez-vous la mauvaise presse qu'on fait à Dieu depuis des générations et des générations, c'est de dire que c'est un père fouettard, qu'il a créé l'enfer pour nous détruire. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'enfer pour nous détruire. Ce n'est pas lui qui nous envoie en enfer. C'est notre péché qui nous envoie nous-mêmes en enfer. Dieu nous a donné, lui, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce Fils qui a été donné comme le Messie, comme le Sauveur du monde, de la race humaine, c'est la miséricorde parfaite, complète, ineffable de Dieu qui s'est manifestée. Et il est important que ce message soit transmis autour de nous aujourd'hui. Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, il a donné un sauveur, son Fils unique, Dieu fait homme, qui est allé porter le poids de ton péché et de ton iniquité à la croix, à ta place, pour que tu deviennes un gracié, pour que tu obtiennes la grâce de Dieu et que tu vives pour l'éternité en sa présence. Ce message de grâce, Dieu veut qu'on le proclame. Ce message de grâce, Dieu nous supplie d'en faire part à ceux qui nous entourent. Voilà pourquoi, encore une fois, je le répète, un chrétien se doit de parler de sa foi. Oui, les circonstances vont changer. Oui, le monde va changer. Oui, les gouvernements, à un moment donné, vont travailler pour qu'on se taise. Certains voient ce processus déjà enclenché avec le confinement des églises. Ça se peut que ce soit le cas. Moi, je vous dirais qu'actuellement, je prêche encore davantage que jamais auparavant. Et je veux m'assurer que peu importe ce qui va se passer et peu importe le nombre d'années qui m'est donné, peu importe le temps qui me reste devant moi, je veux m'assurer de prendre chacune des occasions pour proclamer que la grâce de Dieu s'est manifestée à travers le Christ, notre Sauveur, Jésus, qui est mort pour toi, qui est mort pour moi. Et je veux proclamer que moi-même, en tant que pécheur, j'ai été gracié et je suis maintenant enfant de Dieu. Donc, par ma propre expérimentation, je veux partager la miséricorde de Dieu, mais aussi parce que la Bible m'enseigne que Dieu m'a tant aimé et que c'est à cause de cet amour qu'il a eu envers moi, envers toi, envers nous tous, qu'il a donné son Fils unique. Alors toi et moi, à l'instar d'Israël, nous nous devons encore aujourd'hui de partager la grâce de Dieu. Oh Florent, si tu pouvais parler de moi. Oh Florent, je te prie, proclame ma miséricorde. Arrêtons-nous comme dernier point ce matin sur Oh Israël. Qu'Israël dise. Israël, bien sûr, c'est le peuple de Dieu. Et vous pouvez regarder Israël en deux sens. Soit le peuple, la nation d'Israël, soit la personne de Jacob aussi. Vous savez qu'à un moment donné, Jacob va avoir son nom qui va être changé après avoir lutté contre l'ange de l'Éternel et avoir supplié de recevoir une bénédiction de la part de l'Éternel. La Bible nous dit qu'on va changer son nom et qu'on ne l'appellera plus Jacob, mais qu'on l'appellera Israël, qui veut dire, et on va lui dire, parce que tu as lutté contre l'Éternel. Israël veut dire textuellement en hébreu, Israël, Y-I-S-A-R-A-E-L, je répète, Y-I-S-R-A-E-L, qui veut dire Dieu est vainqueur. Dieu est vainqueur. Elle, c'est toujours, ça a toujours rapport avec E-L, ça a toujours rapport avec l'Éternel ou avec la notion de Dieu. Donc, Dieu est vainqueur. Et on est en train de dire, soit Israël, tu as expérimenté effectivement que Dieu est vainqueur, soit Jacob, en tant que leader, tu as expérimenté aussi que l'Éternel est vainqueur. Donc, ayant expérimenté la victoire de Dieu, nous vous demandons parler de la miséricorde de Dieu. Mais de surcroît à cela, poussons un peu plus loin la réflexion. Si on parle de la nation de Dieu, si on parle de la nation d'Israël, que ce soit Israël en tant que nation encore aujourd'hui, que ce soit Israël en tant que nation à l'époque, ou que ce soit l'Israël spirituel à laquelle chacun d'entre nous en tant que croyants, nous avons été greffés. On parle tout de même d'un peuple qui est assujetti à un vainqueur. Un peuple qui a connu le Dieu vainqueur. Alors, qu'est-ce que tu dis de ce Dieu vainqueur? Vous voyez, très souvent, lorsque quelqu'un a gagné, il devient le dictateur de cette personne. Lorsqu'une guerre est déclenchée entre deux nations et qu'une nation l'emporte sur une autre, la nation perdante est souvent assujettie à la nation qui a gagné. Et ici, si c'était le cas, Dieu est vainqueur, donc moi, en tant que nation, je devrais être assujetti dans la notion humaine à un dictateur. Alors que l'image qu'on a à propager de Dieu, c'est effectivement pas ce père fouettard, c'est effectivement pas ce Dieu vengeur, mais l'image que nous connaissons, que nous avons expérimentée, que nous partageons encore aujourd'hui, c'est l'image d'un père, d'un Dieu rempli de miséricorde. Oui, il est vainqueur, et oui, il est vainqueur d'éternité en éternité, mais il est tout autant vainqueur qu'il est aussi compatissant et miséricordieux. Et nous devons parler de la compassion de Dieu envers nous et envers chacun. Nous devons parler aussi de la miséricorde de Dieu aujourd'hui. Rétablissons l'image de Dieu. Les gens croiront ce qu'ils veulent croire et ce qu'ils décideront de croire. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, proclamons ce que nous avons vécu, ce que nous avons connu, ce que nous avons expérimenté. Notre Dieu a été bon envers nous. Et je suis convaincu que chacun d'entre vous est capable de trouver des occasions où Dieu a été riche en bonté, a été lent à la colère, qui a été compatissant envers vous, qui a été miséricordieux envers vous, qui vous a comblé de grâce et de bénédiction. Vous avez tous ces expériences-là et on vous exhorte, on vous enjoint à proclamer effectivement la grâce et la miséricorde de Dieu. Un Dieu vainqueur, oui, mais pas un Dieu dictateur. Un Dieu compatissant. Un Dieu si compatissant que sa victoire, il l'a gagnée à travers la mort à la croix. La victoire a été signée contre le péché. La victoire a été signée contre la mort dans la mort même du Christ au calvaire. Il est sorti victorieux du tombeau et la première chose qu'il dit, c'est pas « je vais me venger envers tous ceux qui m'ont largué ». C'est aller dire à Pierre, celui-même qui m'a renié 3 fois, celui à qui j'avais dit qu'il allait le faire, celui qui avait dit qu'il allait m'accompagner, allez lui dire à lui, parce que je sais qu'il passe par un moment difficile, allez lui dire que je l'attends lui aussi, comme les autres, en Galilée. Dieu t'a attendu avec miséricorde. Dieu t'a attendu avec compassion. Parce que Dieu t'aimait. On a ce Dieu-là avec nous. Le Dieu vainqueur, mais le Dieu rempli de compassion, et à nous de témoigner de ce Dieu de rempli de compassion. Alors qu'Israël dise, toi, moi, l'ensemble des croyants, car sa miséricorde dure éternellement. Alors on va prier pour rendre grâce à Dieu, et après ça je vous laisse pour aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta compassion. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour toutes ces grâces que tu répands sur nous jour après jour. Très souvent, Seigneur, comme des enfants gâtés, on attend simplement la prochaine. On attend le bonus, on attend la chose précise qu'on désire. Et on tourne le regard loin de tes grâces et de tes bontés que tu répands sur nous quotidiennement. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons nous arrêter pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous avant même que nous te connaissions. Merci pour ton Fils que tu as donné pour nous. Merci pour cette mort que tu as subie à cause de notre péché, de notre iniquité. Seigneur, je prie qu'en réponse dans ma propre vie, je puisse effectivement affirmer, proclamer et répondre que Christ est bon, que Christ est rempli de compassion, que Christ est rempli de miséricorde, que je l'ai expérimenté et que cette expérimentation peut s'étendre à chacun de mes concitoyens et de mes contemporains. Alors je prie, Seigneur, pour moi, mais aussi pour mon frère et ma sœur, que nous ne puissions pas nous taire. Le prosélytisme fait partie de la vie chrétienne. Le fait de partager notre foi est partie intégrale de cette même foi. Alors Seigneur, je prie que je ne puisse pas me taire. Je prie que ma sœur comprenne qu'elle n'a pas le droit de se taire. Je prie que mon frère saisisse pleinement qu'il n'a pas le droit de se taire, mais que nous sommes appelés à être des témoins, des porte-voix, des crieurs publics, des héros qui font jaillir le message de grâce, de miséricorde au sein de cette génération. Alors bénis ma sœur et bénis mon frère ce matin. Suscite les occasions pour eux de témoigner. Je prie qu'ils les voient et qu'ils en profitent pour parler de ta grâce et de ta miséricorde. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, je salue quelques personnes qui se sont jointes à nous. Je remonte un peu. Bonjour à Didier. Bonjour à la sœur Teresa, à la sœur Dora. Bonjour à Ramon. Bonjour à Immacula. Bonjour à Marie-Huguette. Bonjour à Jimmy. Bonjour à Gérard et Denise. À Valmorin. Bonjour à Evelyne. Bonjour à Eric. Bonjour à Lucie. Bonjour à Anéris. Et je pense, bonjour à Carmen aussi. Salut Carmen, ça fait longtemps que je ne te vois pas. Mais en fait, je t'ai vu il y a quelques dimanches. Tu étais là, c'est vrai. Dieu te bénisse. Donc, simplement vous saluer pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain. Et on sera donc mercredi le 7 octobre. Et ça sera donc encore une occasion de partager, car sa miséricorde dure à toujours, le verset 3 demain. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite toutes les occasions, favorables ou non, pour témoigner. J'espère que vous relèverez le défi et que vous porterez haut, vaillamment, le message de l'Évangile à ceux qui vous entourent. Donc que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée et on se retrouve demain. 8h30 pour notre prochaine bénédiction matinale. Que Dieu vous bénisse. Au revoir tout le monde.